Allons aux fêtes par Régis Debray, le religieux mi-honnête.
Que faut-il entendre par Dieu ? Le Dieu unique est un tard venu dans l'histoire des religions. Beaucoup d'entre elles, encore aujourd'hui, s'en passent aisément. On a beau le dire mort, il continue d'exercer en de nombreux points du globe. Ignorer cela serait prendre le risque d'ignorer l'être humain lui-même, son inventeur, dont ce Dieu exprime et sublime à la fois les ambivalences. Dieu, puisqu'il faut bien prononcer son nom à voix haute, est un sujet à risque. Blasphème et sacrilège ont été rayés de notre code pénal, immunité exceptionnelle en Europe. Et il est certes moins foudroyant d'aborder le sujet à Paris qu'à Alger ou Téhéran. Je veux dire l'aborder sans précaution de langage particulière, comme un sujet d'étude parmi d'autres, et certes plus intéressant que d'autres. Mais ça pourra toujours blesser ou choquer un auditeur ou un lecteur, les dévots comme une impiété, les athées comme une bigoterie. Mais enfin, dans un pays où une section des sciences religieuses a pu s'installer dès 1887, et non pas dans une faculté de théologie, mais à l'école pratique des hautes études, au lieu de la laïcité républicaine, j'espère qu'on me pardonnera d'ouvrir le divin dossier sans bonne ni mauvaise intention, sans souci d'instruire à charge ni à décharge. Juste pour en savoir un peu plus sur ce grand vieillard imposant et barbu, ainsi peut-on chez nous le représenter depuis le XIIIe siècle, ce grand vieillard dont procèdent et dépendent tant de choses et d'événements d'actualité. Précisons tout d'abord de qui on va chercher à faire le profil ici. Non d'un principe ou d'une catégorie abstraite, mais effectivement d'un sujet. De Dieu avec une majuscule, celui de Jérusalem, et non du Dieu des philosophes, qui est une fonction logique, au mieux un horloger, mais sans papier d'identité ni rampe de lancement. Donc, Dieu sans l'article, le Dieu ou un Dieu. Dieu comme personne. Comme une personne qui émerge dans le croissant fertile entre l'Irak et l'Égypte d'aujourd'hui, affublée d'un nom propre, Yahvé, écrire YHWH, un tétragramme, puisqu'il n'y avait pas de consonne dans notre premier alphabet. Alors un nom propre, on aurait pu penser qu'il n'en avait pas besoin, Jéhovah étant par définition seul de son espèce. Mais à son époque, comme il y avait beaucoup d'homonymes dans la région, la concurrence était forte et il devait se distinguer des voisins. Des voisins dont son nom originel d'ailleurs garde un peu l'empreinte. Elohim est un pluriel, elle désignant le Dieu en général. Adonai aussi. Le Dieu hébraïque, créateur unique du ciel et de la terre, n'en reste pas moins une innovation, un saut qualitatif dans le défilé des démiurges, même s'il put être associé à ses tout débuts au très vieux dieu solaire, le soleil, créateur de la vie, et même se faire figurer avec une femme à ses côtés. Alors, soyons clairs, le terme de monothéisme ne figure pas dans l'Ancien Testament, d'ailleurs pas plus que celui de religion dans le Nouveau. Mais c'est bien le dieu d'Abraham qui a inauguré l'ère monothéiste. C'est bien lui qui est un ancêtre commun aux trois peuples du livre. À ne pas confondre donc avec l'énothéisme, énos le 1, l'énothéisme de l'Antiquité classique. Notre Dieu universel et transcendant, ce n'est pas le 1 platonicien, ni la cause des causes d'Aristote. Ce n'est pas une entité intelligible, une intelligence contemplative, un principe impersonnel et abstrait, qui ne demande que un acquiescement, non une adhésion, et encore moins une transe. L'énothéiste, ou ce que nous appelons le déiste, c'est un homme tranquille. Il peut contempler le premier moteur immobile sans émotion, avec les seuls yeux de l'intelligence. Notre Seigneur Dieu, lui, ne se contente pas de créer le monde pour aller se reposer ensuite et nous tourner le dos. Il fait le suivi et nous met en demeure. Le Dieu interventionniste et volontiers dramatisant qui nous occupe, à tous les sens du mot, c'est l'infini qui dit « moi, je » et qui, de surcroît, pense à moi. Il allie ces deux qualités a priori incompatibles qui sont la transcendance et la proximité. D'une part, le Créateur est radicalement distinct de et supérieur au monde créé, au monde sensible qui m'entoure, mais il m'est possible de l'interpeller dans un rapport intime de personne à personne. Autrement dit, c'est un dehors absolu qui peut me parler du dedans. Il nous entend, nous voit et nous console, et on peut s'adresser à lui non seulement par un datif cérémonieux, Deo gratias, merci à Dieu, mais par un vocatif plein de reproches. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Remercier le soleil, créateur de toute ville sous le nom d'Aton, le pharaon égyptien Akhenaton pouvait le faire, comme l'atteste d'ailleurs son hymne gravé dans l'albâtre qu'on voit au musée du Caire. Pouvait le faire aussi l'Imazeus du stoïcien grec Cléante. Mais tutoyer l'absolu un peu rudement, c'est bel et bien une révolution dans l'histoire de l'esprit. Alors, ouvrons le dossier, une pièce après l'autre. Ce Dieu majuscule n'est pas né de rien ni n'importe où. Il a donc une histoire. Il a une écologie, c'est-à-dire un milieu. Il a une logistique, c'est-à-dire des moyens de transport, et il a un médium, c'est-à-dire un support. Il a aussi certains problèmes à résoudre d'ordre intellectuel, et il a des responsabilités d'ordre historique. L'affaire, on le voit, n'est pas simple. L'historique d'abord. Car l'éternel n'a rien d'éternel. Celui qui est rentré dans l'histoire des hommes a lui-même une histoire toute fraîche. Dieu est un tard venu dans le ciel des entités célestes. L'homo sapiens a à peu près, disons, 100 000 ans d'existence, l'âge des premières, des toutes premières sépultures. Et Dieu, quel âge a-t-il ? 2500 ans. Vous voyez que c'est un parachuté de dernière minute sur les terres du sapiens sapiens, y compris sur celles du peuple hébreu. Peuple hébreu dont il est fait pour la première fois mention en Égypte vers 1200 avant Jésus-Christ, sur la stèle du pharaon Marneptah, sous le nom de Hapiru, d'où vient probablement hébreu. Cette tribu fut d'abord comme les autres polythéistes, puis monolâtre, c'est-à-dire avec un dieu national identitaire, qui en tolère d'autres chez les peuples voisins. Avant d'embrasser à la fin la cause d'un dieu à la fois universel, le même pour tous les peuples, et singulier, ayant conclu une alliance avec le seul peuple hébreu. Donc, voyez-vous, ce dieu dont nous parlons, il a émergé entre le 7e et le 6e siècle, entre le règne centralisateur de Josias, -627, et l'exil à Babylone, -587. Sa première apparition incontestable remonte à ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire les derniers chapitres du livre d'Isaïe dans la Bible. Livre rédigé au retour des Judéens captifs à Babylone après leur libération par le Perse Cyrus. Dieu le Père, on le voit, fut l'enfant glorieux d'une catastrophe humiliante, qu'a été la destruction du royaume de Juda et précédemment du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor en -587. Son approche pourrait peut-être déjà remonter à la chute de Samarie prise par les Assyriens en -722. On le voit, c'est le fruit, le produit d'une longue construction rédactionnelle, ou plus exactement, d'une reconstruction qu'on peut dire ex post ante, faite après coup. Une reconstruction littérale, littéraire, par une élite captive à Babylone et qui a voulu s'expliquer le pourquoi de sa déportation, le pourquoi de sa défaite, en réécrivant tout son passé, en s'inventant à titre rétrospectif un dieu protecteur aussi puissant et terrible que le grand dieu babylonien Marduk, un dieu avec lequel cette élite avait fait alliance. Et c'est pour avoir rompu ce pacte d'alliance, dit-elle, qu'est intervenue la punition divine et l'envoi en exil de ses fidèles pour cause de désobéissance. Ce fut une terrible mésaventure et les consignée dans le Deutéronome, non sans quelque mégalomanie propre à réparer une honte nationale. Donc Dieu, dès l'origine, dès Moïse interpellé par le Très-Haut, tandis qu'il fait paître le troupeau de son beau-père, Dieu pourrait se comparer dans le langage d'aujourd'hui, géopolitique, à un combattant suprême anti-impérialiste. Anti-égyptien d'abord, anti-assyrien, anti-philistin. Un remontant moral en quelque sorte, un secouriste pour sombre temps, un étendard brandi par le faible face au fort. Un moyen de réunification en interne, qui a permis de réunifier les deux royaumes concurrents d'Israël et de Juda, au nord et au sud, et un moyen de dissuasion stratégique propre à effrayer l'ennemi sur un champ de bataille. Donc, ce dieu-là fut un dieu d'orage, de colère, de combat, pour qui l'attaque était souvent le meilleur moyen de défense. C'était un dieu viril. Un dieu viril devenu célibataire sur le tard et qui n'a pas d'enfant, contrairement à son successeur chrétien, mais qui eut, c'est attesté par des pièces de monnaie, des graffitis et des sceaux, qui eut une épouse, une parèdre, Asherah, proche parente d'Astarté et de la reine du ciel, et qu'on adorait avant l'exil dans le royaume de Juda. Alors, après l'histoire, il y a un habitat, un milieu à la fois humain et physique. Les empires mésopotamiens, comme les cités grecques, pour s'en tenir au premier millénaire avant Jésus-Christ, avaient des protecteurs, bien sûr, mais sédentaires et citadins, perchés sur leur acropole. On les appelait des dieux polias de polis, la ville, les dieux de la cité. Mais notre Dieu à nous, l'omniscient, n'est pas un citadin. Il fraye dans les montagnes, les steppes et les déserts. La forêt lui répugne. D'ailleurs, en Afrique, elle reste animiste, la forêt. Il n'aime pas les métropoles avec leurs fonctionnaires. Dans la Bible, Osée 2, verset 16, « Je te conduirai au désert et parlerai à ton cœur, dit ce Dieu. » Le roi loge en ville, le prophète est au désert avec les anachorètes, là où il n'y a ni prêtre, ni percepteur, ni soldat, ni flic, ajouterai-je. C'est en périphérie que les tables de la loi sont octroyées, que les Hébreux errent pendant 40 ans, que le Baptiste baptise et que Jésus se retire pendant 40 jours. C'est là que Moïse, dont il n'existe aucune trace historique en dehors de la Bible, c'est là que Moïse rencontre Dieu pour la première fois au milieu des cailloux, sur le mont Horeb. La ville et ses faces confrontent l'homme à l'homme, c'est Babylone, le siège impur du pouvoir où se pavanent les antéchrists. Le désert, lui, le désert et son dénuement, ouvre à l'autre avec un grand A. Il incite à lever la tête, à trouver l'interlocuteur au-dessus, puisqu'il n'y en a pas à côté. Non que le monothéiste soit un taiseux, au contraire. C'est un homme de parole et qui vit par la parole. Mais quand on n'a personne avec qui parler et qu'on n'aime pas rester seul, eh bien, on fait parler le grand autre, on devient un peu ventriloque. Qu'il parle hébreu, araméen ou arabe, Yahvé, comme Allah, se fie et se confie aux modestes, aux métèques et non aux pensus, aux assis, aux installés. Et vous connaissez les phrases de Renan, Le désert est monothéiste. Sublime dans son immense uniformité, il révéla tout d'abord à l'homme l'idée de l'infini, mais non le sentiment de cette vie incessamment créatrice qu'une nature plus féconde a inspirée à d'autres races. Voilà pourquoi, ajoutait Renan, voilà pourquoi l'Arabie a toujours été le boulevard du monothéisme le plus exalté. Les Saoudiens et les Wahhabites n'auraient rien à dire là contre. Il y eut aussi, parlons logistique maintenant, une dernière et décisive condition de naissance, c'est-à-dire une révolution symbolique. Oui, parce que vous savez, l'idée d'un Dieu universel, contrairement à l'idée de nature, l'idée d'un Dieu universel et non l'idée de nature, elle fait si peu partie du bagage génétique des mammifères humains qu'ils ont pu vivre sans elle durant le plus clair de leur existence, et continue de le faire, en Chine, en Inde, au Japon et en de nombreux autres lieux sur la planète. Pour que cette émergence ait pu se produire, il a fallu que l'homme puisse s'affranchir de la nature brute grâce à deux conquêtes, deux innovations techniques, l'élevage et l'alphabet. La domestication des quadrupèdes, et l'écriture alphabétique. Et c'est cette combinaison miraculeux hasard qui a mis à feu la fusée monothéiste. L'errance d'Œdipe, réfléchissons un peu, tournons-nous vers l'Antiquité, l'errance d'Œdipe, chassée de sa ville, Thèbes, ça en fait un renégat. Et dans le monde grec, quitter son lieu, c'est renier son dieu. Au contraire, l'Exode, 40 ans dans le désert, ça approfondit une fidélité. Avec le rouleau de papyrus et un dieu, pour ainsi dire, déshydraté, lyophilisé et ensaché, donc allégé, plus besoin d'autel, on peut garder sa foi en perdant son temple. On a, dirais-je, le téléphone sans fil avec le ciel. L'exil n'est plus une mort civique, ni le bannissement la plus terrible des sanctions. Au contraire, c'est un stage de purification qui débarrasse le transcendant de ses scories institutionnelles et le rend à lui-même. Un monothéiste peut, et même il se doit, d'emmener Dieu à la semelle de ses sandales, en tirant sa monture après lui, et la transcendance suivra quel que soit l'itinéraire. Donc double décollage véhiculaire par l'alphabet et le quadrupède, l'âne hébraïque et plus tard le cheval islamique. Oui, les Hébreux, ces éleveurs et pasteurs en milieu semi-désertique, furent les premiers à pouvoir emmener leur céleste parrain avec eux. Ce qui n'eût pas été possible sans la domestication des camélidés, exploit et spécialité des Madianites nommément mentionnés dans Isaïe, verset 66. À toi la puissance des nations, les chameaux afflueront vers toi et les petits venus de Madian chargés d'or et d'encens colporteront la louange de Yahvé. Cette peuplade semi-nomade fut en effet traversée par Moïse à sa sortie d'Égypte, et c'est au milieu d'elle que son Dieu l'a interpellé. Mais c'est la combinaison du quadrupède et Victor Hugo, sachez-le, a donné pour titre à son grand poème théologique l'âne. Oui, il aborde la question de Dieu en parlant de l'âne, mais c'est la combinaison du quadrupède et d'un nouvel alphabet qui s'est avéré des plus prometteuses. Propulsé par l'écrit, sur un support souple, papyrus ou parchemin, une mythologie orale et vernaculaire peut se muer en un foyer ambulant ou une mouvance transfrontière. Pour se déplacer, commencez par se désencombrer. Ce dieu nouveau peut se transformer à sa guise en courant d'air ou en arc-en-ciel parce qu'il a remplacé le choc des images par le poids léger des mots. Dans l'évolution des systèmes de notation, d'abord avec le passage du pictogramme à l'idéogramme puis au phonogramme, c'est-à-dire le signe qui note un son, Dieu décroche du monde sensible grâce à cet outil qui permet de décomposer, de discrétiser le continu d'un flux sonore au moyen de signes conventionnel et non motivé, c'est-à-dire ni des pictogrammes ni des idéogrammes qui imitent encore l'apparence naturelle des choses. Soit un code standard susceptible de faire exister mentalement des choses qui n'existent pas concrètement, cite à produire des énoncés qui peuvent se couper de leurs conditions d'énonciation. Disons que c'est ce système amincissant d'inscriptions, une trentaine ou une vingtaine de caractères, qui est facile à apprendre, à mémoriser, à conserver et à réciter. Qui est facile surtout à emmener avec soi. Ce fut là un tournant dans notre ascension humaine du molaire au moléculaire, puis au corpusculaire, jusqu'à aujourd'hui, où avec le numérique, nous avons atteint notre vitesse de libération. L'humanité, voyez-vous, elle avance en compactant son pactage. Supériorité de la pochette sur la poche, de la sacoche sur la valise, du hindou sur le in quarto, du tract sur l'enseigne et du flyer sur le tract. Le dématérialisé, c'est l'ami du surnaturel. Si vous voulez, il y a un less is more divin qui a tiré le meilleur parti de ce qu'on peut appeler la règle du minimax, c'est-à-dire l'augmentation de l'être par diminution de sa taille et de son poids. Car c'est en devenant presque rien que ce dieu portatif a pu devenir presque tout et se faufiler partout. Le polythéisme, avec ses statues, c'est à l'échelle 1. Le monothéisme, avec ses rouleaux, c'est un modélisme. Et la course au diminutif ne s'est pas arrêtée là. L'islam a poursuivi sur cette lancée. Il a mis Allah en accès libre en le délestant de ses complexités trinitaires, celles du culte chrétien, de ses lourdeurs cérémonielles, de ses intercesseurs cléricaux. Donc, mobilité accrue et conversion bien plus aisée, une simple récitation. Et ensuite, avec la réforme protestante, qui réduit l'équipement liturgique, immobilier et décoratif au strict minimum, on allège toujours le pactage. Et du protestantisme, dans toutes ses variantes, on peut dire qu'il a libéré Dieu de la religion. Ce serait plutôt lui, non le catholicisme, la religion de la sortie de religion. Parce qu'il nous a, ou il a délesté le divin de ses intermédiaires professionnels. Nous pouvons devenir tous prêtres. Et nous voilà maintenant avec un Dieu cyber, suite à la révolution numérique où le croyant peut accéder directement et de n'importe où à l'être suprême, sans besoin d'une qualification quelconque pour choisir et interpréter le bon verset parmi les 6200 et les 114 sourates du Coran. L'innovation n'est d'ailleurs pas des plus heureuses au regard de l'ordre public. Et Yahvé avait fait à Moïse, je reviens à la logistique, un cadeau génial en lui communiquant, tel un kit de survie théologique, la notice de construction d'un sanctuaire mobile et démontable pouvant accompagner ses protégés dans leur pérégrination. Ce sanctuaire, c'est le tabernacle. Et qu'est-ce qu'un tabernacle ? C'est une arche en toile, placée sur un chariot tiré par des bœufs avec deux perches pour la monter à l'étape, et un coffre ou deux contenant des rouleaux soigneusement enveloppés de tissu. La statue, c'est statique. Ça cloue fidèle à son sol natal, là où sont les temples et les autels de pierre. Et jusqu'à ce Deus ex scriptura, les dieux étaient en résidence forcée. C'étaient des idoles centripètes, sans délocalisation possible. Le Dieu littéral, lui, notre Dieu, est un SDF plein de dynamisme, bon pour toutes les migrations échappées et métamorphoses. Ce monothéisme, le voilà né, et il va connaître plusieurs vagues, chacune disqualifiant la précédente et l'accusant même d'avoir truqué ou mal compris le message. Parce qu'une nouvelle religion, c'est toujours une activité fractionnelle par rapport à l'ancienne. C'est la fille ennemie de son père. Après quoi, une fois émancipée, l'hérésie devient orthodoxie. Et c'est ainsi que Yahvé a fondé une dynastie revêche, pleine de suspicions et de ressentiments tenaces. D'ailleurs, le chrétien, avec son Dieu trinitaire, avec ses saints et sa Vierge Marie, c'est encore aujourd'hui, aux yeux d'un juif orthodoxe, un polythéiste des plus douteux, qui a rechuté dans le paganisme. Et l'islam est par bien des côtés une hérésie du judaïsme, un judaïsme moins l'élection, donc universalisable. La lignée, vous le voyez, a continué d'élargir son territoire et son emprise, en se dotant d'une croissante facilité de transport et d'accès jusqu'à l'ubérisation actuelle du Très-Haut. Pour reprendre la métaphore logistique, ne vous effarouchez pas. Au début était le sac, puis vint le panier, et enfin le caddie. Normal dans une société de marché où le self-service est de rigueur. D'abord le dieu sac, qui était sévèrement fermé par une appartenance ethnique. Il faut être juif par le sang pour y accéder. Puis le dieu panier, celui du chrétien qui a un couvercle, qui est le clergé, pour contrôler l'accès, mais qui l'en trouve sous certaines conditions et où n'importe qui peut venir y puiser. La conversion n'a cure de l'origine des convertis. Et puis enfin, le caddie évangélique, lui, est à porte ouverte et relève, si j'ose dire, du supermarché. Le born again le remplit à sa guise. Chaque formule a ses atouts. Le Dieu du judaïsme est un peu à l'étroit. C'est ce qui fait sa force, mais aussi sa limite. Le Dieu catholique, lui, il a fait le mur. Il a gagné l'Empire romain et puis tout l'Occident. Amérique compris. Le Dieu réformé est un prestataire de service d'humeur beaucoup plus libérale. C'est un père qui n'exige pas qu'on ait l'Église pour mère. D'ailleurs, 23% d'Américains n'appartiennent à aucune église, mais 90%, dit-on, croient en Dieu, en un Dieu personnel. Les Amish, les piétistes, les anabaptistes, les pentecôtistes trouvent leur compte à ce Dieu-là. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aujourd'hui deux fois plus de missionnaires protestants de par le monde que de catholiques, notamment en Chine, en Corée du Sud et même en Sibérie. Quant à Allah, le nom arabe de ce Dieu dont je parle, il est d'une mobilité saisissante qui jouxte l'insaisissable, intransigeant et rigide dans ses préceptes, mais s'adaptant à tous les milieux socioculturels. Enfin, dernier point, le médium. Notre Dieu jaloux se distingue des précédents par le médium qui lui a permis de voyager léger jusqu'aux plus lointains confins, de voyager de traduction en traduction, le manuscrit d'abord, puis l'imprimé. Ce grand mot ténébreux tout gonflé de clarté, c'est ainsi que l'appelait Victor Hugo fort justement, car avec lui, au départ, il n'y a rien à voir. Seulement à dire ou à lire. Un patriarche sans représentation anthropomorphe et donc sans physionomie a un avantage sur les rivaux. Outre qu'on peut le mettre dans sa poche ou dans ses bagages, on n'est pas tenu de lui donner une identité quelconque, ce à quoi l'image oblige. Une effigie, ça a forcément un sexe, un âge, un caractère. Mais un hymne ou une prière adossée, adressée à un nom sans contour précis, ça laisse toutes les options ouvertes. Ouverture de compas maximale. Plasticité et grande capacité, je veux dire, d'adaptation. On peut répondre à toutes les demandes. Donc, une tribu au départ faible et ultra minoritaire, cernée par de puissants empires, elle aura plutôt besoin, cette tribu, non pas d'un dieu colombe, mais d'un dieu taureau. Celui de Josué, le successeur de Moïse, le conquérant de Canaan, le conquérant de la terre promise. Mais ce seigneur, ce maître, ce roi, le Sabaoth du peuple hébreu n'est pas le dieu d'intimité et de consolation du chrétien persécuté, qui n'est pas non plus le dieu de justice, le dieu prolétaire du 48 art sur la barricade, qui n'est certes pas, lui, le dieu des armées. ni le principe d'ordre et de résignation auquel on appelle aussi bien Voltaire que Napoléon Ier. Napoléon Ier qui écrit à Roederer « Quand un homme meurt de faim à côté d'un autre qui regorge, il faut une autorité qui lui dise « Dieu le veut ainsi ». Mais le Dieu de Napoléon n'est certainement pas le Dieu que priait Charles de Foucault au désert. « Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira ». Lequel Dieu n'est pas non plus le Dieu qu'invoque au Brésil la communauté chrétienne de Bâle pour qu'il, je cite, « pour qu'il renverse les potentats de leur trône, élève les humbles, rassasie les infamés et renvoie les riches les mains vides ». Oui, un Dieu sans visage peut devenir, selon le lieu et le moment, un dieu de cour, un dieu de ville, un dieu des faubourgs. Il peut devenir le protecteur des gens de bien dans les beaux quartiers et le vengeur des gens de rien dans les banlieues. Chacun est libre d'interpréter les paraboles, les versets, les sourates, qui sont toujours libres d'emploi. Mais si le tout-voyant ne se laisse pas voir, ou le moins possible, hein, c'est le secret de l'autorité. Et si aujourd'hui, il ne répond plus, il a su jadis se faire entendre derrière le rideau, même au milieu du tonnerre. Vous savez, la vue n'inspire pas trop confiance dans le désert, où on n'est jamais sûr de ce qu'on voit. Alors, entre le mythe et le mirage, choisir le premier, c'est plus fiable. Et la théophanie, comme on dit, la première manifestation de Dieu, a été sonore, auditive. Les Écritures ont ensuite enregistré ces interpellations, appels ou murmures, puis les ont cousues ensemble et reliées en un volume, une fixation graphique, née variéture. La Torah, la Vulgate, le Nouveau Testament, la Mouchaf, c'est-à-dire le corpus coranique officiel attribué au calife Outhman. Oui, parce que si les cultes antiques ont des vestiges de pierre, ont une documentation matérielle faite de sceaux, de tablettes, de statuettes, de tessons, sans parler des temples et des statues, le Dieu dont je parle ajoute à cette documentation physique des documents écrits. Et au fond, elle remplace l'archéologue par le philologue, celui qui va commenter les textes. On parle des trois religions du livre, mais on devrait plutôt dire des liseurs, parce que l'invu ne peut être que lu, et les Écritures, au fond, sont sa seule carte de crédit. Le prophète est une vox clamans in deserto, clameur dont fera mémoire une transcription pour qu'elle puisse se transmettre de père en fils. C'est alors que l'affaire mémorielle devient une affaire éditoriale, rédaction, réduction. Oui, quatre évangiles en un seul, c'est pas facile de faire tenir en un seul livre, en un seul codex. Puis traduction par saint Jérôme, du grec au latin, la Vulgate, puis fixation du canon, les livres à recopier et à relire, disons. Pour les évangiles, cela se passe entre le 6e et le 8e siècle. Mais si ce divin ineffable, interdit de prononciation, parfois se dépose dans un livre, ce livre n'a pas les mêmes statuts dans tous les monothéismes. Chez les juifs, c'est l'écriture qui est sacrée, chez les musulmans, c'est le texte, et chez les chrétiens, ni l'un ni l'autre. La Torah s'embrasse, se borde le soir et s'habille le matin. Des textes en caractère hébraïque ne sont pas détruits, mais enterrés. Et les scribes hébreux tracent le tétragramme avec crainte et tremblement. Mais contrairement au Coran, la Torah n'a pas à être apprise par cœur. La réciter de mémoire ferait perdre contact avec la lecture. Le chrétien, lui, ne rend un culte ni au support, ni à l'écriture. La perte d'un missel n'est pas un péché mortel, et le copiste médiéval qui rate une lettre peut gratter son palimpseste et recommencer sans scrupule. Et pour cause. Dieu, dans le christianisme, il inspire, mais il n'écrit pas, alors que le Coran est la parole même de Dieu. Pour les chrétiens, le Nouveau Testament reste une œuvre inspirée, mais humaine. En revanche, le fait que Mahomet n'ait su ni lire ni écrire laisse à Dieu, et à Dieu seul, la qualité d'auteur d'un livre le Coran, aux écritures somptueusement calligraphiées et enluminées, exigeant de son lecteur un état de pureté, pouvant même servir de talisman, mais qui reste vénéré, mais non pas adoré. L'écrit n'est pas un médium innocent, ce n'est en tout cas pas un médium asexué. Et pour la femme, mieux vaut que le Tout-Puissant se fasse chair plutôt que livre ou écriture, parce que quand l'écrit est valorisé et l'image dévaluée, c'est le sexe féminin qui est rétrogradé. La victoire du symbolique sur l'imaginaire, l'autre moitié du monde va la payer au prix fort. Et les conservateurs des écritures, que sont les religions du livre, ne réservent rien de bon aux filles d'Ève. Disons que l'incarnation chrétienne leur sera la moins défavorable ou la plus douce, la plus ouverte, avec la Vierge Marie, un retour en scène du féminin païen. Maintenant, résumer ainsi les conditions de naissance, il faut voir ce qui en découle. La toute-puissance de Dieu, elle bute sur une difficulté logique qui n'a cessé de gréver sa longue histoire, 2500 ans. Son point fort, c'est la révélation qu'il impose comme une vérité incontestable et fulminante. Le Très-Haut, on l'a dit, ne peut pas mentir. Mais son point fort est également son point de vulnérabilité. Pas seulement parce que cette révélation sans attestation ni documentation objective n'a pas d'autre garant que ceux qui s'en réclament, soit. Mais parce qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans le fait qu'ait pu être franchi un fossé incommensurable entre le Créateur et ses créatures. Ce ne pouvait être, bien sûr, qu'à l'initiative du Créateur. Si en effet des êtres finis avaient pu accéder par leurs propres moyens à cette forteresse sans porte ni fenêtre, comme est Allah dans le Coran, l'infini ne serait plus infini. Et il serait à peu près, peu ou prou, de même nature que nous. Il faut donc que ce soit ce Dieu opaque qui ait fait le premier geste par pur amour et bienveillance, motu proprio, pour combler la distance entre une transcendance indescriptible et une très basse immanence. Vous voyez que le point de jonction entre les deux plans, le très haut et le très bas, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible du système, c'est la boîte noire à laquelle l'opposant ou le sceptique vont fatalement devoir s'attaquer. Et c'est par là que peut se rompre toute la chaîne d'autorité, toute la chaîne de transport entre le ciel et la terre. Et c'est ce que chaque construction théologique va s'efforcer de cuirasser de son mieux en en faisant un mystère impénétrable ou un dogme intouchable. Bref, un article de foi, en plaçant un panneau dissuasif à l'entrée du royaume. « Voie sans issue, passez votre chemin. » Mystère de l'Alliance, puisque c'est par le peuple élu que le Dieu hébraïque rentre dans l'histoire des hommes. Je ferai de toi une grande nation, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, 23. Mystère de l'incarnation dans le christianisme, puisque c'est par un corps de chair soumis à la souffrance et à la mort que le Fils, seconde personne de la Trinité, a pu rejoindre le monde des hommes. Mystère enfin, dans la dernière des révélations, mystère enfin de la nuit du destin, puisque c'est la descente de la parole de Dieu apportée par l'ange Gabriel à un être aussi réceptif qu'une tablette vierge que s'est opérée la troisième et ultime révélation pour établir dans sa vérité une parole altérée ou truquée par ses prédécesseurs. Dans le premier cas, le Verbe s'est fait peuple. Dans le deuxième, il s'est fait chair. Et dans le dernier, il s'est fait livre. Donc un Dieu logiquement inaccessible, mais avec trois voies de raccordement qui se sont, si j'ose dire, succédées l'une après l'autre. L'opération médiatrice, la jonction, c'est le triple saut périlleux. Ça passe ou ça casse. Si vous jugez que le risque en vaut la peine, si vous croyez en la révélation, vous êtes croyant. Sinon, mécréant. Vous serez Spinoza et vous direz votre surprise de voir un peuple de bergers parmi d'autres transmué en nation sainte et placé de ce fait à part et au-dessus des autres. Banni de la communauté juive. Ou alors vous serez Ernest Renan et vous écrirez une vie de Jésus en l'appelant « cet homme incomparable » et non pas Dieu et fils de Dieu. Renvoyé du Collège de France. Ou encore vous serez le sceptique Al-Rawandi au IXe siècle ou le médecin savant Razès au Xe siècle. Ces musulmans rationalistes. Il ne faisait pas bon de s'interroger sur tout ce qui a pu se passer entre le VIIe et le Xe siècle dans le monde arabo-musulman, puisque c'est au Xe siècle que remonte la compilation définitive des versets du Coran. Et les dissidents qui ont soutenu que le Coran incréé était une création ont été éliminés. Dans les trois cas, malheur à vous et à votre mémoire. Faire du mal. Dès qu'on a rejeté le panthéon politiste qui distribuait les rôles du bon et du méchant au sein d'une troupe d'immortels, turbulentes et extensibles. L'unique, lui, doit tout assumer, y compris le pire. C'est le problème qu'on appelle la théodicée ou justice de Dieu. Il a trouvé maintes de solutions théoriques que je n'examinerai pas ici, faute de temps. Sauf pour rappeler l'avantage de l'aniconisme, l'absence d'icône, l'absence d'image, qui peut maintenir le clair-obscur et l'imprévisibilité des réactions comme des foudres divines émanant d'un être à la fois jeune et vieux, guerrier fougueux, arbitre serein, colérique et miséricordieux. Le surmonde grec ou latin, il se partageait entre Apollon et Dionysos, entre Vénus et le Minotaure, entre le lumineux et le nocturne. Le Dieu un doit synthétiser tout cela, ce qui en fait un personnage intrinsèquement ambigu, comme d'ailleurs les institutions elles-mêmes qui s'en font les porte-parole ou les élus privilégiés, je veux dire les saintes églises et les nations saintes. Les peuples élus, pensons aux États-Unis d'Amérique, regorge d'ambivalence. Ils croient fermement en Dieu et en leur destinée manifeste et ils suscitent des sentiments ambivalents. La nation américaine, avec son âme d'église, elle est double. Elle est à la fois protectionniste et protectrice, libidinale et puritaine, profiteuse et désintéressée. Idéaliste et matérialiste, légaliste et bandit, pasteur et shérif, humanitaire et tortionnaire. Les craignants dieux d'outre-Atlantique ont de quoi justifier l'amour haine qu'ils suscitent alentour. Pour représenter la double nature d'une divinité à la fois cannibale et tutélaire, les Grecs avaient inventé un monstre cornu, corps d'homme et tête de bête, et qu'ils appelaient le dieu dithyrambique ou syncrétique, le dieu multicarte, si vous voulez. Le dieu théologique, le nôtre, celui dont je parle, il a prudemment expulsé le diable hors de lui-même. Il en a fait son adversaire, l'indispensable ennemi, car ce qui vaut pour les hommes vaut aussi pour les dieux. On ne sait plus qui on est quand on ne sait plus à quoi on s'oppose. Dieu, dit-on, a besoin des hommes. Il a encore plus besoin de Satan. Et contre le prince de ce monde, alias l'axe du mal, tout est permis, y compris le mensonge d'État et la guerre préventive. D'où vient la tentation, chez le Pékin d'aujourd'hui, de mettre en examen ce père à double face en lui imputant tous les malheurs du monde? Abat le monothéisme! Abat ce dieu sadique et prétentieux! Oui, c'est vrai, les croisades, les Saint-Barthélemy, les human bombs, les fous de Dieu. Notre patriarche à longue barbe n'y serait pour rien. Qu'il constitue un facteur aggravant, ce n'est pas impossible. Veillons cependant à ne pas en faire le parfait bouc émissaire, voire l'ennemi public numéro un. Vous savez, les kamikazes japonais n'avaient pas d'Allah au-dessus de leur tête, et ils n'obéissaient qu'à leur empereur. Et les hommes n'ont pas attendu la naissance des dieux, ni même celle des États, pour s'entretuer allègrement. Les premières traces de blessures causées par des objets contendants remontent à 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et les chasseurs-cueilleurs se débrouillaient fort bien pour se faire la peau tout seuls, sans besoin d'un verset du Coran ou d'un hymne biblique affiché au mur de la caverne. De même n'ont-ils pas attendu la naissance de Dieu pour espérer dans une vie future et croire que l'âme ne meurt pas avec le corps, comme l'attestent les orbites teintées de carmin, les crânes ornés et les dépôts d'aliments dans les tombes de l'âge de bronze. Le sentiment d'immunité, l'aveuglement que peut donner l'obéissance à une autorité supérieure et a fortiori une autorité absolue comme Dieu, c'est toujours redoutable. Mais on imagine assez bien un verdict à la Churchill, reportant sur le monothéisme sa formule célèbre sur la démocratie. Le monothéisme, la pire des religions à l'exception de toutes les autres. Alors, restons sages. Ne nous emballons pas, pour ou contre. La sagesse, me semble-t-il, serait de ne pas trop en demander à cet être parfait, mais en fait aussi ambigu, aussi ambivalent et imparfait que nous. Ne pas trop en attendre et ne pas trop lui en vouloir. Parce que si on l'observe d'un peu près, je veux dire à travers les Écritures, nous n'avons pas d'autre accès. Cette personne idéale, est-ce que c'est pas notre propre visage qui se découvre à travers elle? Dieu, on l'a vu, il a toutes les compétences. Il peut perdre et sauver, il peut tuer et faire revivre, il peut faire la guerre et faire la paix, bref. Il est capable de tout, du meilleur comme du pire. Tel, je dirais, un tout en un de l'être humain. Parce que l'être humain, on le sait capable de tout, lui aussi vindicatif et pitoyable, mesquin et charitable, terroriste et urgentiste, un bipède très chouette, et très moche. Regardons-nous dans la glace, s'il vous plaît. Plus l'astrophysicien s'éloigne avec ses télescopes du système solaire, plus il remonte dans le passé de l'univers jusqu'à pouvoir rêver de photographier son point zéro. De même, plus nous remontons dans le temps, plus nous scrutons l'être intime de Dieu, plus le révélé se révèle révélant, révélateur. Personnellement, je verrais volontiers la théologie comme une préface à l'anthropologie, comme une préface sublimée à l'anthropologie la plus positive. Et de Saint-Augustin à François Mauriac, en passant par Pascal, chacun peut constater que ceux qui ont fréquenté le bon Dieu d'assez près sont allés très profond dans la connaissance de l'être humain. Et au fond, quand il se présente à tous comme un expert en humanité, comme Paul VI à l'ONU en 1965, le souverain pontife ne fait pas que de la propagande, ne fait pas que sa propagande. Et d'ailleurs Voltaire, qui n'était pas du même bord, tout en professant lui aussi un déisme précautionneux, un déisme qu'il estimait socialement indispensable, Voltaire a pu écrire « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu ». Un libre penseur pourrait fort bien renverser la formule et dire « L'homme a fait Dieu à son image et le Dieu de Moïse et de Josué, le Dieu de Saint Paul et du grand inquisiteur, le Dieu d'Averroès et le Dieu de Ben Laden le lui a bien rendu, parfois même un peu trop, au centuple. Mais finalement, à qui la faute? À lui ou à nous? Aux inventeurs ou à l'inventé? Sur cette question, aucune consigne de vote ne sera tolérée. Le scrutin est secret et le fort intérieur inviolable et souverain. À chacun de répondre comme il veut.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Thank you.